La semaine s'est ouverte avec un scrutin législatif en Ukraine. Sans surprise, le parti des régions du président pro-russe Viktor Yanukovych est arrivé en tête devant la coalition de l'opposition soutenue par Yulia Tymoshenko, l'ancienne chef du gouvernement, toujours emprisonnée. Si cette avance n'est guère une surprise, le scrutin a relevé des percées inattendues comme celle du parti nationaliste Svoboda qui a recueilli près de 12% des suffrages. Cette formation populiste se présente comme pro-européenne mais ses thèses sont inquiétantes, comme l'expliquait Jean-Yves Camus, chercheur associé à l'IRIS.
C'est un parti qui est absolument incompatible dans son idéologie avec les normes européennes de respect des droits de l'homme et de non-discrimination, à la fois par son antisémitisme, par son racisme, par son révisionnisme historique, par le style de gouvernement qu'il entend imposer. Reste qu'évidemment, s'affirmer pro-européen, c'est aussi imprimer une autre direction. Il ne suffit pas évidemment d'être pro-européen par défaut, il faut encore participer des valeurs fondatrices de l'Union européenne, et ça, Svoboda, qui a entretenu ses dernières années des liens étroits avec le Front National version Jean-Marie Le Pen, ne peut absolument pas y prétendre.
En Israël aussi, la droite populiste a le vent en poupe. C'est sans difficulté que le parti de Benjamin Netanyahou, le Likoud, a accepté une alliance électorale avec le parti Israël Beitenu du ministre des Affaires étrangères Avigdor Lieberman, un mouvement ultranationaliste. Les deux partis feront formation commune pour les élections législatives du 22 janvier prochain. Un calcul gagnant pour le chef du gouvernement israélien qui devrait ainsi se maintenir à son poste. Est-ce un pas de plus dans la droitisation de la société israélienne? Frédéric Ancel, docteur en géopolitique et maître de conférences à Sciences Po Paris, nous livrait son éclairage.
C'est la traduction de la droitisation de la vie politique israélienne. Alors, c'est pas nouveau, hein. Depuis la fin des accords d'Oslo et plus exactement le déclenchement de la deuxième intifada en 2000, vous avez ce glissement permanent vers effectivement une droite nationaliste, parfois religieuse, parfois pas. Là, en l'occurrence, elle ne l'est pas. Et donc, c'est l'illustration pour le Likoud et Israël Beitenu, donc le parti d'Avigdor Lieberman, russophone, de cette réalité. Le pari de ces deux leaders, c'est de dire voilà, on aura d'autant plus de chances de l'emporter si on s'allie parce que l'union, comme souvent, fait la force, ou en tout cas crée une espèce de mouvement, et face à une gauche travailliste qui va de toute façon relever la tête. Mais face à cette remontée prévisible et prévue de la gauche travailliste, eh bien voilà, ces deux leaders se disent que faire bloc sera plus intéressant vis-à-vis de l'opinion.
L'opposition syrienne peine à faire émerger une alternative viable au régime de Bachar al-Assad. Le Conseil national syrien s'essouffle, principale coalition de l'opposition politique. Le mouvement se réunit ce dimanche à Doha, au Qatar, pour tenter de trouver une ligne claire. Car la coalition est très hétéroclite. Dans un communiqué publié ce jeudi, le CNS accusait les États-Unis de vouloir le remodeler afin d'élargir l'opposition, en écho à une proposition d'Hillary Clinton. Des critiques qui masquent mal un mouvement aujourd'hui discrédité et peu à peu marginalisé par la communauté internationale, comme le soulignait Fabrice Balanche, maître de conférence à l'université Lyon 2 et directeur de GREMO, le groupe de recherche et d'études sur le Moyen-Orient.
Le CNS en fait est dans une impasse. Le CNS est de plus en plus sectaire. On voit bien qu'il est dominé par les frères musulmans. Il est incapable de réunir autour de lui davantage de groupes d'opposition. Il n'a pas réussi, par exemple, à conserver les Kurdes qui ont claqué la porte. En fait, vous savez, les gens du CNS fonctionnent en fait comme le régime syrien. Pour avoir discuté plusieurs fois avec des gens du CNS, je me suis rendu compte qu'ils étaient tout aussi autocrates que les cadres du régime baathiste, ne voulant pas reconnaître les problèmes communautaires qu'il pouvait y avoir au sein de la société syrienne, niant la réalité. Ils ont exactement le même fonctionnement.
Au nord et au centre du Nigeria, la population nigériane est victime des attaques du groupe islamiste Boko Haram, mais aussi des représailles des forces de sécurité nigérianes. Amnesty International dénonçait dans un rapport publié cette semaine les agissements des forces spéciales de l'armée. Au lieu de protéger la population, elle accentue la violence avec des opérations punitives à l'encontre des civils, violant les droits de l'homme en toute impunité. C'est ce que nous révélait Francis Perrin, porte-parole d'Amnesty International France.
Les forces de sécurité qui dépendent de ce tente de lutter contre ce groupe pour l'empêcher de commettre des actes terroristes. Mais le problème, c'est que ce faisant, ces forces de sécurité commettent elles aussi de très graves violations des droits humains. Et nous avons notamment identifié des actes de torture, des arrestations arbitraires, des détentions sans procès, sans inculpation, parfois pour de longues durées, des disparitions forcées de personnes et des exécutions extrajudiciaires, pour reprendre ce terme de droit international. Et la population civile est prise entre deux feux.
On a parlé également du Nigeria cette semaine, mais pour évoquer la paix, le prix de la paix 2012 du mouvement Pax Christi Internationaliste a été remis à Mgr John Onayekan, archevêque d'Abuja. Pax Christi saluait ses efforts soutenus et persévérants pour la justice, la paix et le dialogue interreligieux. Le prélat a été à travers son action un promoteur d'une plus grande compréhension entre croyants de diverses traditions religieuses par le dialogue en Afrique et en particulier dans son pays. Mgr Onayekan réagissait sur notre antenne peu de temps après la remise de son prix, nous expliquant en quoi sa tâche est ardue, mais gardant toujours l'espoir.
Ce n'est pas tout le monde qui voudrait la paix. Il y a les gens qui font tous pour troubler la monnaie du pays. Il y a des gens qui ont des idées très fanatiques, qui n'acceptent pas que les autres ont des idées différentes, qui ne peuvent pas respecter la diversité. Et la diversité est partie naturelle du monde et de la relation humaine. Si on réussit à les convaincre qu'il faut essayer de trouver moyen de vivre ensemble, alors on pourrait avoir l'environnement pour le progrès, pour l'harmonie dans la communauté.